Star Berlins.
It's morning edition from NPR News.
Let me hear some people housing.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, on vous offre une rencontre avec Ken Loach qui, cette fois dans son dernier film « Sorry We Missed You », s'attaque à l'ubérisation du travail, les jobs zéro heure, très britanniques. Mais est-ce qu'on est vraiment très loin de tout ça, nous aussi? On parlera aussi Brexit ensemble et c'est tout de suite. Le bruit du monde est en Éthiopie qui cherche à éradiquer les mariages des jeunes filles mineures. Ça concerne encore 4 jeunes filles sur 10. Et Amélie Perrier nous parlera d'une taxe sur la chicha en Arabie Saoudite ainsi que d'une concubine répudiée en Thaïlande. 18h50, passons genre dans le monde et Julia Foyce avec le mea culpa de Pharrell Williams pour un de ses anciens tubes. Le monde à l'envers et Jean Marfour qui nous emmène dans les îles éparses. Elles sont françaises, Emmanuel Macron va y faire un stop. Elles sont autour de Madagascar, mais au fait, pourquoi faire? Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Et on est donc heureux d'avoir ce soir avec nous l'infatigable défenseur de la classe ouvrière britannique. Et au-delà, il le montre dans chacun de ses films. Après I, Daniel Blake, il y a 2 ans, il avait dit « J'arrête, je suis trop vieux ». Le revoilà avec « Sorry, we missed you ». On est heureux d'avoir Ken Loach avec nous ce soir et Eva Bettan qui est là également. Bonsoir Ken Loach.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Dans moi, Daniel Blake, vous nous aviez laissé dans cette ville de Newcastle, dans l'absurdie totale du système des aides sociales notamment. Moi, j'ai eu l'impression que vous nous y rameniez et que, au fond, c'était presque une suite que ce film, cette fois-ci, peut-être un plongeon plus profond, un plongeon plus brutal, puisque cette classe ouvrière que vous décrivez depuis tant d'années, aujourd'hui, on a l'impression qu'elle s'exploite elle-même avec les nouveaux systèmes et notamment le système zéro heure que vous dénoncez.
Very nice to see you again.
Tout à fait. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver ici.
Employers have found new ways to
les employeurs ont trouvé de nouvelles façons d'exploiter les travailleurs. Et j'ai l'impression que cela va se diffuser à travers l'Europe, que l'on le veuille ou pas, parce que nous vivons dans un marché libre. Et si jamais un employeur trouve un système pour exploiter, et d'autres employeurs vont utiliser le même système.
Et
ce système particulier d'exploitation dans le système est le suivant. Le mari est un conducteur de van pour des produits, il livre des produits qui sont livrés par Internet. Et ce système fait qu'ils sont auto-employés, ils s'emploient à eux-mêmes, si vous voulez. Ils ne sont pas employés par une compagnie. Et donc, c'est une fiction de leur faire croire qu'ils sont eux-mêmes leur propre patron. Leur employeur ne paie aucune taxe, il n'y a pas de congé maladie, ils doivent être propriétaires de leur propre véhicule. Si jamais ils sont trop malades pour travailler, non seulement ils ne reçoivent pas de compensation, mais ils doivent payer quelqu'un d'autre pour faire le travail qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire. Donc toute la responsabilité est mise sur les épaules des travailleurs. Et si quelque chose se passe mal, eh bien, ils se mettent dans une situation de dette et ils deviennent eux-mêmes encore plus exploités par le système.
Ce qu'on voit dans votre film, c'est que, au fond, votre personnage croit qu'il achète son indépendance en même temps qu'il s'endette pour acheter cette fameuse camionnette. En réalité, il est commandé par un boîtier électronique et il pisse dans une bouteille parce qu'il a même pas le temps de s'arrêter, même pas 5 minutes dans la journée.
That's true.
Oui, c'est ça.
And I think this idea, you know, it's a struggle over language.
Et quelque part, c'est une bataille du langage, une bataille des mots. L'homme qui va le prendre sous contrat, il dit qu'il est un combattant de la route et qu'il faut qu'il soit un gagnant, pas un perdant, et qu'il doit avancer vers son propre destin. Et ça, c'est ce langage faux de l'économie libérale. Et il n'y a plus d'idée de société, finalement. Tout le monde et se bat pour lui-même. Et tout le monde est finalement en compétition avec tout le monde. Et ça a commencé, ce système-là, finalement, sous Thatcher. Et ça n'a fait que progresser tout le temps, jusqu'à aujourd'hui. On a à peine conscience que c'est par les mots, c'est par la langue, c'est par la langue qui transmet le mensonge.
Donc si t'es pauvre, c'est de ta faute.
Absolument.
Absolument.
Allez-y, Eva,
si on regarde, l'évolution de votre cinéma depuis 1993, par exemple, Raining Stone, c'était deux chômeurs qui volaient un mouton pour acheter Film Formidable, une robe de communion. Mais il y avait encore des rires, mais il y avait encore de la solidarité, il y avait encore l'idée qu'il y a une classe ouvrière, même si elle souffre. À quel stade de l'histoire on est aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est quasiment pire aujourd'hui, parce qu'il n'y a même plus la solidarité, il n'y a même plus la conscience d'appartenir à une classe.
Well, and it's not quite as bad as that.
Disons que c'est quand même pas à ce point-là. C'est pas comme à ce point-là terrible. Le système exige que les gens soient en concurrence les uns avec les autres. Et les gens, quelque part, essaient toujours d'avoir le meilleur travail, c'est-à-dire d'obtenir les meilleures tournées pour de livraison, de façon à gagner plus d'argent. Mais la femme de notre héros, qui s'occupe de personnes âgées, est aussi dans une situation précaire. Elle n'a pas d'heures de travail qui lui sont garanties. Et pourtant, la chaleur, l'amitié et l'engagement, l'implication qu'elle met dans son travail avec les gens, auprès des gens avec qui elle travaille, ça c'est de la solidarité. Et cela montre que nous sommes tous des humains. Qui devons faire face aux mêmes situations difficiles.
Mais je parlais de solidarité de classe. Vous qui pensez qu'il ne peut y avoir un changement que s'il y a un mouvement organisé. Je ne vois pas comment voyez-vous que puisse naître un changement.
Yes. Well, I think that we...
Je crois qu'on aurait pu faire un film où on aurait pu montrer des choses qui se passent aujourd'hui, notamment une grève de livreurs. Vous savez, les livreurs sur leur moto et qui livrent des colis. Et il y a des gens qui aujourd'hui font une grève en ce moment à Londres pour avoir de meilleures conditions de travail. Mais la plupart des chauffeurs ne se mettent pas en grève. La raison pour laquelle on a montré ce sujet, notre film, c'est que on a voulu vraiment montrer des gens qui se trouvent dans une situation absolument, qui sont au bord de leur situation. Et si jamais on avait mis ça dans le film, les gens se seraient dit, voilà où on en est aujourd'hui. On a voulu montrer quand même une situation dynamique, une situation d'espoir.
Mais les parents dans Sorry We Missed You essayent quand même de maintenir une vraie vie familiale, donc les moments d'intimité, ils existent. Mais au fond, dans l'Angleterre d'aujourd'hui, Ken Loach, est-ce que ces deux enfants-là ont une chance de vivre une vie différente de celle de leurs parents?
J'ai l'impression que les gens se débrouillent d'une façon ou d'une autre. Là, en l'occurrence, dans cette famille, les deux parents sont en situation précaire. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation en ce moment. Et j'ai l'impression que les femmes en particulier essayent véritablement de s'occuper quand même de leurs enfants et de leur parler et de leur dire tout le temps, passe pas ton temps sur l'ordinateur, je t'ai préparé à manger, fais tes devoirs. C'est difficile, la vie. Et les problèmes auxquels ils font face sont tellement importants que c'est difficile, la vie au quotidien. Et le contact aussi se perd entre générations. Et tout ça, ça vient du système économique. Donc oui, il y a des problèmes. Le niveau de stress est très élevé. Et des maladies mentales peuvent en découler. Sérieusement.
Going alongside the cutbacks in dealing with those mental issues of stress.
Et toutes ces questions de maladies, de déficience mentale sont difficilement prises en charge par un système qui a perdu beaucoup de moyens. Et donc les relations entre les gens, effectivement, et ça c'est la cause en est l'économie, les relations humaines finalement se trouvent perturbées.
Est-ce que c'est l'Angleterre qui dérive peut-être même plus vite que d'autres, ou est-ce que c'est le système global, et je vais vous y emmener doucement, est-ce que c'est l'Europe qui nous y emmène aussi?
Mais non, pour le film, j'ai traversé vraiment beaucoup de quartiers dans Paris où il y a pas mal de problèmes aussi. Donc il y a des choses qui se passent comme ça dans tous les pays. Mon sentiment, c'est que c'est un problème mondial. Parce que le capitalisme est mondial. nos produits que nous achetons. Ils viennent de pays où la main-d'œuvre est pas chère. Bangladesh pour les vêtements. Et on sait que la situation que nous avons nous-mêmes, que nous vivons nous, serait perçue comme très positive pour eux. Et donc, c'est finalement, le système se dirige vers les endroits où l'exploitation est la plus forte. Et donc, tout ça est une marée qui ne fait qu'avancer, qui ne fait que progresser. Et j'espère que vous allez défendre les conditions de travail et la sécurité du travail au mieux ici. Mais à moins que l'on s'organise tous entre Européens, on va vraiment aller arriver à quelque chose qui va être une bataille.
Je ne veux pas vous saper le moral, mais est-ce qu'en un demi-siècle de cinéma, vous avez fait de très beaux films, mais est-ce que vous n'avez pas aussi acté de la mort de la classe ouvrière ? Disparition, je voulais dire échec, plus exactement.
L'échec, oui. C'est un problème très important, c'est une discussion très intéressante. Parce que la classe ouvrière a quand même un pouvoir. Elle produit des choses qui sont fabriquées. Et elle peut être militante, elle peut résister. Elle peut résister à toutes les choses qui lui arrivent. Mais il lui faut un leader, il lui faut une organisation. Et on a eu deux faux dieux, le stalinisme et la social-démocratie.
Vous parlez de pouvoir, vous parlez d'une classe ouvrière qui doit s'organiser, vous avez même prononcé le mot de bataille. Mais j'ai presque envie de vous dire, elle est où cette bataille ? Comment vous expliquez qu'une grosse partie de cette classe ouvrière-là s'est jetée dans les bras de Nigel Farage, de Boris Johnson aujourd'hui ? Comment se fait-il qu'elle en soit rendue là ? Et qu'il n'y ait personne dans votre camp qui ait réussi à lui donner cet espoir-là, qui dit « je suis votre représentant et ensemble on pourra aller quelque part ».
Deux choses.
D'abord,
on pourrait là, quand je vous entends, on pourrait parler des années 20, ça pourrait être les années 20, non ? Je ne dis pas que ce sont des fascistes, que Farage est un fasciste, ou Trump, etc. Le mot fascisme n'est pas un mot à utiliser à la légère, mais concrètement, les gens ont voté contre leur propre intérêt. Pour renforcer des slogans populistes à long terme et aussi pour une politique à long terme. Et des problèmes qui. Et on voit des résultats déjà du populisme. Mais en Grande-Bretagne, ce qui est particulier, c'est que le plus grand parti d'opposition est un parti vraiment de gauche. Je préférais qu'il soit un peu plus de gauche. Mais vraiment, le programme de ce parti est vraiment de réduire de façon significative le pouvoir des grandes compagnies internationales. Et pour l'Europe, et finalement, c'est le plus grand parti de gauche en Europe aujourd'hui. Et on a besoin d'une gauche européenne. On a besoin d'un mouvement de gauche européen qui puisse se battre. Et on a presque gagné. On a failli atteindre le gouvernement, avoir le gouvernement. Mais bien sûr, l'establishment le déteste et a peur de lui. Donc notre leader est pour l'instant pas bien vu. Mais peut-être même si jamais vous entendez parler de Johnson, il n'a même pas été élu par grand monde.
Alors, le fameux leader dont vous parlez, c'est votre ami Jeremy Corbyn, qui quand même, on a l'impression que lui aussi s'est pris les pieds dans le Brexit, c'est compliqué. Même le parti travailliste sur ces questions-là n'a pas trouvé la clé, n'a pas trouvé à convaincre la classe ouvrière.
Je ne sais pas d'où viennent vos informations. Mais j'ai pas tout à fait le même point de vue. Pour le Brexit, ça a été très clair. Le Brexit, c'est un argument de droite. Ce sont des grandes compagnies qui veulent rester en Europe parce qu'elles veulent les parts de marché et les mineurs et les protections pour les ouvriers, ça les intéresse pas. Et cette droite dure, qui sont des pirates, qui pensent pouvoir plus encore exploiter les ouvriers. C'était ça l'argument, c'était la seule chose. Que l'Europe est un marché libre pour le business, et que soit il faut la transformer, soit tout recommencer. Cet argument n'a pas été entendu. Le Labour de Corbyn Il est divisé au Parlement, mais beaucoup de membres du parti ont rejoint le parti justement à cause de lui et pour le soutenir. Et le parti est plus uni, ses membres sont plus unis que tout autre parti. Mais bien sûr, vous n'entendez jamais ça, on n'entend pas ça. On entend les membres du Parlement de droite qui étaient là depuis les gouvernements de Blair et qui détestent Corbyn. Donc c'est une situation étrange où il y a un leadership qui est clair et aussi des membres du parti qui sont très dévoués. Mais c'est quelque part des gens qui sont au centre, qui deviennent au milieu de ça, qui deviennent la voix et qui ne font sans cesse que de sous-estimer et de contredire finalement les lignes du parti.
Si c'était à refaire, si on imaginait un revote, ce qui est jamais totalement impossible d'ailleurs, autour de ce Brexit, est-ce que au fond, vous vous dites parfois, allons-y, puisque l'Europe est si compliquée à changer de l'intérieur, ou est-ce que vous pensez toujours, c'est ce que vous disiez au moment du vote, qu'il vaut mieux essayer de le changer de l'intérieur plutôt que de le faire de l'extérieur? Aujourd'hui, dans ces deux ans de chaos politique, est-ce que votre opinion est restée identique?
C'est une question de tactique. Donc oui, il faut travailler les uns avec les autres en Europe. Il faut que les classes ouvrières se rejoignent et se rassemblent. Mais il faut réécrire les documents fondateurs et fuir une économie libérale pour aller vers une économie planifiée. Et donc, après le stalinisme, qu'est-ce qui peut encore arriver? Il peut arriver encore beaucoup de choses négatives, mais il faut déterminer nos principes. Il nous faut une Europe basée sur la propriété en commun, le soutien entre chaque personne. Il faut mettre nos économies en accord les unes avec les autres. Il faut empêcher les gens de devoir déménager et de partir au loin juste pour avoir de meilleures conditions. Et puis, aussi, empêcher la colonisation économique de pays qui ne sont pas dans les mêmes conditions que nous. Donc oui, il nous faut une Europe différente. Comment y arriver, je ne sais pas. Je pense que il y a vraiment encore beaucoup d'éléments. Mais ça n'est pas le Brexit tel qu'on le discute en ce moment en Angleterre, c'est sûr. Alors, je ne sais pas si j'ai la force de m'y remettre encore. Mais les histoires, elles sont là et il faut les raconter.
Merci beaucoup.
Merci
à vous. Et merci à Harold Manning, bien sûr, pour la traduction.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse, sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde en Éthiopie, où l'on essaie, à force de persuasion, d'éradiquer le mariage des très jeunes filles, des mineurs. Ça concerne toujours 4 filles sur 10. Le bruit du monde sous les radars et Amélie Perrier avec une répudiation qui fait grand bruit, Amélie.
Oui, la concubine du roi qui avait été installée, elle est répudiée au bout de 3 mois.
Eh bien, dites-moi, allez, c'est pas son genre à Julia Foyce de passer sous les radars. Elle, les histoires de femmes dans le monde, vous les aurez, vous verrez pourquoi Pharrell Williams a dû faire amende honorable après l'un de ses énormes tubes. Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir.
Qu'est-ce qu'on fait, nous, la France, dans les îles éparses, alors, autour de Madagascar?
Vous mélangez Jules Verne, Robinson Crusoe et la décolonisation, et vous avez les îles éparses.
Allez, à tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète continue avec Norah Jones, tout chaud, qui vient de recommencer à zéro. Tiens, Begin Again sur France Inter.
Every thought that I ignore, now the questions at my door. It's where we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? You know how we got here.
as you rope. I've said these words before, felt this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Now I find it hard to breathe. Everything that you wrote sticks inside and chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of find his way out of the mud, where the people at the top lose their way enough to stop.
C'est en Éthiopie que résonne le bruit du monde ce soir, l'Éthiopie, pays qui bouge en ce moment, dont le Premier ministre est prix Nobel de la paix, vous le savez, qui essaye d'avancer sur un autre chemin, notamment en éliminant les mariages d'enfants, qui représentent encore 4 fillettes sur 10. Dans la région d'Amara, c'est dans le nord-ouest de l'Éthiopie, le gouvernement fédéral a sélectionné des districts locaux avec l'aide de l'UNICEF, un gros travail de persuasion auprès des communautés. C'est là que Vincent Dublanche nous emmène.
Nous sommes ici, Fabienne, dans une zone très rurale. Il faut quitter la route goudronnée et s'engager sur une piste en terre. Nous voici dans le village de Bahana Ginsi. Une poignée d'habitants est réunie, assis en cercle sur des bancs. L'atelier est mené par 2 jeunes fonctionnaires, une femme et un homme. Le but est de discuter du mariage précoce pour mieux en faire ressortir les aspects négatifs. Asekek Kende a animé les débats, elle résume le propos.
Par exemple, sur la santé, cette mauvaise habitude du mariage avant 18 ans peut amener des problèmes comme la fistule, les soucis cutanés, mais aussi psychologiques. Et puis, quand tu te maries jeune, tu es affaibli financièrement. Et au final, tu n'auras pas une vie normale.
Les habitants qui participent à ce genre de groupe de discussion communautaire sont ensuite censés aller convaincre leur entourage. Dans l'école primaire du village, c'est l'heure de la récré. L'une des classes se remplit, tout au contraire, Beyenesh Getaoun, l'enseignante de géographie, accueille ses élèves. C'est un club des filles. Le principe, c'est toujours la discussion, mais cette fois-ci avec les principales intéressées. C'est via ce club et cette professeure, Kasresse, 16 ans, a pu dénoncer son propre mariage l'an dernier. Une de ses copines avait eu vent du projet. Elle se souvient.
C'était un samedi. Je revenais de l'école. J'ai entendu ça. Et le mardi suivant, j'ai rapporté ce problème à mon école.
La mère d'Astressé elle-même a été mariée à l'âge de 9 ans. Elle en a aujourd'hui 35.
Je voulais donner ma fille en mariage, car je suis très pauvre. Je pensais que si elle se mariait, elle pourrait s'en sortir seule, en ayant sa propre famille.
La raison économique est l'un des facteurs. Un mariage arrangé aide à tisser des liens entre familles. Et puis, les traditions sont fortes, notamment celle de la virginité. Alors, pour éviter les relations sexuelles avant le mariage, autant avancer la noce. Dans le village, les leaders affirment parler d'une même voix, à l'image du prêtre orthodoxe, le père Menkelehun.
Le mode de pensée de la communauté, nous, les prêtres, désormais prêchons contre, nous l'interdisons.
Le père Menkelehun avance un argument massu.
Aujourd'hui, quand ils voient et réalisent que des enfants peuvent revenir après leurs études et aider leur famille, ils se demandent « Est-ce que l'argent que nous dépensons pour un mariage en vaut la peine ?» C'est bien mieux d'utiliser notre argent pour envoyer nos enfants à l'école.
Mais Bahana Ginsi est un village étendu et toutes les communautés ne sont pas aussi réceptives aux arguments du religieux, des autorités, de l'UNICEF. Alors l'aspect légal est rappelé aux récalcitrants selon Teganye Adamou, l'un des participants des discussions collectives du village.
Le mariage des enfants est interdit par la loi. D'après les articles 647 et 648 du Code pénal, une personne qui a simplement signé l'accord pour un tel mariage peut être poursuivie.
Ce sont ces menaces de la justice qui amènent souvent les parents à changer d'avis, comme ceux d'Astressé. Sa professeure de géographie a joué son rôle en signalant le cas aux autorités. Beyenesh croit en une prise de conscience collective.
Pour résoudre ce problème, chacun doit participer. Moi-même, je tiens un rôle avec tout mon cœur. Je le fais très sérieusement. Et lorsqu'un mariage est annulé, je suis heureuse.
La région Amhara d'Éthiopie avance, même si l'objectif zéro mariage d'ici 5 ans est loin d'être atteint, c'est un euphémisme. Plus inquiétant pour les militants anti-mariage des enfants, certaines zones sont encore plus à la traîne. Dans les régions périphériques du pays, la prévalence du mariage des mineurs stagne, voire augmente légèrement.
Vincent Dublange en Éthiopie pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup Vincent. Le bruit du monde passe aussi sous les radars comme tous les soirs et c'est Amélie Perrier qui lui redonne du sens. Et Amélie, pas facile d'être une femme au Palais Royal en Thaïlande.
Mais ça ressemble un peu au Feu de l'amour, version asiatique et très cruelle. Vous vous rappelez peut-être, à la rentrée, je vous avais présenté Sininad Vongvajirapakdi. On la surnomme Khoi. Khoi, c'est plus simple, Khoi. Ouais. C'était la maîtresse du roi de Thaïlande. Et cet été, le roi, Rama X, lui a attribué le très officiel titre de concubine.
พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลังทักษิณทกพระสงฆ์ถวาย
อนุโมทนาถวายที่ Alors voilà la cérémonie très protocolaire retransmise à la télé où le roi Rama X aux côtés de la reine installe sa concubine comme une seconde femme. Khoi, 34 ans, la moitié de l'âge du monarque, était la première à hériter de ce titre de concubine depuis près d'un siècle. Elle ne l'aura gardé que 3 mois. Le roi vient de la déchoir. Il lui enlève tous ses titres à cause, dit-il, de sa déloyauté et de son ambition de prendre la place de la reine. Khoi est également déchue de tous ses titres militaires. Elle, l'ancienne garde du corps royal qui posait en treillis aux commandes d'un avion de combat ou avec des armes, elle était générale de division. Le pays est sous le choc d'une telle mise au ban, mais il n'a quasiment pas le droit d'en parler, de commenter ou de débattre. Les lois contre la diffamation de la monarchie sont extrêmement sévères en Thaïlande. Nous, si on peut prendre parti, quand même, on va pas se gêner, hein. On prend quand même un peu cette concubine renvoyée du palais sans ménagement.
C'est vrai, bah écoutez, comment elle s'appelle déjà ?
Khoi. Son vrai nom ? Sininad Vongvajirapakdi.
Ouais, c'est beau. Allez, c'est une tradition en péril en Arabie Saoudite. Le narguilé est désormais soumis à une taxe.
Une taxe de 100% sur la chicha. Vous savez, cette pipe à eau que l'on trouve dans de nombreux pays arabes, que l'on fume aussi dans OSS 117, le film d'espion avec Jean Dujardin.
La première bouffée est pour vous, Sidi Bonisseur de la Batte. Le kiff apaise, détend et permet d'avoir des conversations agréables et constructives. C'est une vieille tradition orientale.
Eh bien, dans ce cas, c'est avec plaisir que je me remets à fumer. El Ayahem, El Waladin.
La shukran al wajib. Il est extrêmement flatteur de voir un homme de votre envergure pratiquer avec tant d'aisance notre langue. Ce n'est donc pas avec un hôte, mais avec un ami que je vais partager ce narguilé.
Voilà. L'Arabie Saoudite impose donc une taxe de 100% à la chicha, appelée aussi hookah, servie dans les bars et les restaurants. Le problème, c'est son application. La taxe est due sur toutes les factures réalisées par les commerces qui servent des narguilés, précise le ministère saoudien. Donc, la taxe s'applique à toutes les commandes, même quand le client n'a pris une chicha. Eh oui, des internautes postent ainsi sur les réseaux sociaux leur ticket où la facture totale de leur dîner a doublé. La presse s'insurge. Alors, certains établissements abandonnent totalement depuis la hookah, la chicha, pour épargner cette taxe de 100% à leurs clients, c'est le but. Rappelons que le narguilé est un vrai problème de santé publique. Une session, entre guillemets, de chicha, selon une étude médicale de la Pittsburgh University, c'est 125 fois plus de fumée, 25 fois plus de goudron et 10 fois plus de monoxyde de carbone qu'une cigarette.
Voilà, c'est plein de paquets de cigarettes pour une soirée. C'est ça. En fait. Allez, on termine avec une petite révolution au Kazakhstan.
Au Kazakhstan, où l'on parle, Fabienne, la langue.
Le kazakh.
Le kazakh, c'est ça, de la famille des langues turques.
Выборы особые. Я приостановил свои полномочия президентские.
Alors voilà comment ça sonne. Ici, c'est l'ancien président Nursultan Nazarbayev. C'est lui qui avait décidé d'abandonner l'écriture cyrillique, la même que pour le russe, le cyrillique utilisé depuis 80 ans dans cet ancien satellite soviétique. Nazarbayev voulait passer à l'alphabet latin pour moderniser le pays, pour permettre aux futures générations d'utiliser plus facilement Internet et pour apprendre l'anglais sans l'obstacle de l'écriture. Depuis, les linguistes s'arrachent les cheveux pour retranscrire le cyrillique en latin. Le nouveau chef de l'État ordonne cette semaine, une fois de plus, de retravailler le nouvel alphabet. Et si le travail est si compliqué, c'est que les autorités veulent passer à des lettres latines, mais pas de la même façon qu'en turc ou en ouzbek, des langues aux mêmes racines pourtant. Ça paraît bien compliqué et ça fait rire les Kazakhs aussi. Par exemple, avec le mot carotte. Comment on dit carotte en kazakh?
Oh bah vous me demandez ça, je vous en prie.
On dit sébise. Et sa transcription en lettres latines, eh bien ça ressemblerait beaucoup à un juron en russe, le russe parlé encore par une grande partie de la population du Kazakhstan.
On en apprend des choses grâce à vous. grâce à votre chronique polyglotte, Amélie Perrier. Merci beaucoup. On se retrouve demain.
À demain.
Lou Reed et le Velvet Underground, Sweet Jane sur France Inter. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a Stutz Bearcat gym, you know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. CJ, oh, CJ, oh, CJ. I'll tell you something, Jack, he is a banker. Come home from work. Ooh, sitting down by the fire. The radio does play the classical music there, Jim. The march of the wooden soldiers. All your protest kids, you can hear Jack say. Lou Reed et le Velvet Underground sur France Inter. Mesdames, messieurs et personnes en tout genre, Julia Foy, c'est là. France Inter. Un jour dans le monde. Julia qui, chaque semaine, nous donne des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète LGBT. Julia, on commence avec le mea culpa de la semaine.
Celui du chanteur américain Pharrell Williams, machine à tube planétaire qui, un beau jour de mars 2013, en duo avec Robin Thicke, commis ceci. Okay, now he was close, tried to domesticate you, but you're an animal, baby, it's in your nature, just let me liberate you, you don't need no papers, that man is not your man. Hey, 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 woo! ça marche bien, hein,
ouais,
hein,
pas mal,
hein, c'est entraîneur, ouais. Hein. Et ben ça marche tellement bien que la chanson est restée 5 semaines numéro 1 des charts, tout en déclenchant immédiatement la colère des associations féministes, en étant très vite classée aussi par The Guardian comme la chanson la plus controversée de la décennie, et se retrouvant dans la foulée interdite sur le campus de l'University College de Londres. Eh ben oui madame, mais si vous n'étiez pas, oui vous Fabienne, si occupée à bouger votre boule sur cette chanson, vous en entendriez
peut-être
les paroles. C'est l'histoire, votre boule, c'est un boule, c'est au masculin, faut vraiment tout vous apprendre. Cette chanson, c'est donc l'histoire d'une très gentille fille que les deux chanteurs prennent parce qu'ils savent qu'elle le veut, même si elle ne le dit pas. Une conception du consentement toute personnelle donc, qui au passage ajoute une touche de glamour dont les violences conjugales se seraient bien placées. 6 ans plus tard, Pharrell Williams lui-même le reconnaît. Dans une interview au magazine JQ, il le dit « Je n'avais pas mesuré à quel point ce morceau justifie le comportement de certains hommes. J'ai pris conscience avec MeToo de la culture machiste dans laquelle nous vivons. » Vous savez quoi, Pharrell ? Mieux vaut tard que jamais. Allez, sans rancune.
En voilà d'autres qui pourraient à leur tour faire leur mea culpa.
Et il serait des milliers tous ceux qui, pendant des mois, ont insulté, menacé, trollé, harcelé, Sully, ex-star de la K-pop. La K-pop, pour ceux qui nous écoutent et qui auraient plus de 15 ans, c'est à la fois un mouvement musical parti de Corée du Sud, très rare, mais qui compte ses fans par millions dans le monde entier. C'est aussi une industrie du disque qui génère chaque année des milliards de dollars. Ce qui veut dire pour les chanteurs et les chanteuses très jeunes, pour la plupart, une pression gigantesque. On ne compte plus d'ailleurs les dépressions et des suicides parmi eux, dont sans doute cette fameuse Sully. En 2014, elle est au sommet de sa gloire quand elle commence à s'écarter doucement mais sûrement de cet univers aussi pop que creux. Pour s'engager clairement dans la cause des femmes, ses prises de position féministes sont publiques. Visiblement, elles gênent, elles dérangent, elles agacent, d'où une campagne de cyberharcèlement qui la conduit tout aussi doucement, tout aussi sûrement à l'arrêt définitif de la chanson. On la disait déprimée, angoissée, subitement solitaire. La semaine dernière, son corps a été retrouvé chez elle par son manager. Un suicide, donc, vraisemblablement. Vous savez ce qu'on dit, Fabienne, hein, le féminisme n'a jamais tué personne. Le machisme, lui, tue tous les jours.
Et quand il ne tue pas, il viole aussi.
L'histoire se passe en Croatie, dans un petit village de la côte dalmate. 5 hommes qui, pendant près d'un an, violent une gamine de 15 ans et de manière répétée. Ils filment et ils menacent de poster la vidéo sur les réseaux sociaux. La gamine finit par en parler à l'école. Les suspects sont arrêtés, incarcérés et puis libérés. Alors que l'enquête, elle, se poursuit. Mouvement de révolte dans tout le pays. Tous les jours, des milliers de femmes sont descendues dans la rue protester contre la décision du juge. Elles ont bien fait. Une semaine plus tard, les suspects étaient de nouveau derrière les barreaux. On dit quoi ? Bien fait ?
Allez, on enchaîne avec l'idée de génie de la semaine.
Qui nous vient de Pologne, où les ultra-conservateurs au pouvoir viennent d'adopter en première lecture un texte de loi pour interdire l'éducation à la sexualité à l'école. Porté par une association catholique radicale, il prévoit en outre de punir tous ceux qui y contreviennent à des peines allant de 3 à 5 ans de prison. Pourquoi ? Parce que, disent les partisans du texte, l'éducation à la sexualité, on le sait bien, ne sert à rien d'autre qu'à apprendre aux enfants à se masturber, à encourager l'homosexualité et à former des générations de dépravés. Comme chacun sait, on serait éventuellement tenté de leur rappeler que ça reste quand même la meilleure façon d'éviter les grossesses non désirées ou la propagation de MST chez les jeunes. Mais non, on va dire bravo, grâce à vous, les ados feront leur éducation sur le net à coups de porno.
Allez, circulez, Madame Foyce, et à la semaine prochaine.
Fabienne Saint-Ès, le 18-20.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Emmanuel Macron, Jean-Marc est arrivé à Mayotte, dans l'océan Indien. Donc, et demain, il va se rendre à proximité, dans un bout méconnu de territoire français. Ça s'appelle les îles Éparses. Et honnêtement, je ne savais même pas que ça existait. C'est une première pour le chef de l'État. Seulement, voilà, le fait même que ce soit un territoire français est un fait qui se discute et c'est votre monde à l'envers.
Alors, vous n'avez effectivement, vous qui nous écoutez, sans doute jamais entendu parler de ces îles comme vous, Fabienne
Saint-Ès. Ça me rassure un tout petit peu.
Pourtant, leur histoire est captivante. Au premier coup d'œil, ça ressemble à un peu un conte de fées. Il était une fois un petit paradis, mer turquoise, récifs coralliens, roches ou plages de sable blanc, une carte postale. Les Éparses, ce sont au total 5 petites îles ou archipels. Les Glorieuses, c'est là que se rendra Emmanuel Macron demain, Europa, Juan de Nova, Bassas de India et Tromelin. Les 4 premières se trouvent dans le canal du Mozambique, c'est-à-dire entre le continent africain et la grande île de Madagascar. La 5e, Tromelin, est plus à l'est, entre Madagascar et l'île Maurice. Le tout possède un parfum de Robinson Crusoe. Il n'y a aucun habitant à demeure, si ce n'est 15 Français, 14 légionnaires et un gendarme qui se relaient tous les 2 mois. Et pour couronner le tout, c'est une merveille de biodiversité avec une faune exceptionnelle, des tortues vertes, des requins citrons, des concombres de mer, beaucoup d'oiseaux rares comme certaines espèces de sternes, une formidable base de recherche pour les scientifiques. C'est sans doute pour cette raison qu'Emmanuel Macron s'y rend demain. Le cadre est parfait pour mettre en scène la défense de l'environnement. Donc ça, c'est pour le conte de fées.
Sauf que, donc, il y a un hic dans ce fameux conte de fées.
C'est un peu comme dans Shrek, hein, vous savez, badaboum dans le « Il était une fois ». La souveraineté française sur ces îles est très contestée. Par Madagascar sur les quatre premières, par Maurice sur la dernière. Ces deux pays y voient un reliquat de colonialisme et leur point de vue se défend. Allez, un peu d'histoire. Au départ, en 1896, lorsque la grande île de Madagascar devient officiellement colonie française, les îles Éparses sont adjointes à cette annexion. Seulement voilà, en 1960, tour de passe-passe. Juste avant l'indépendance de Madagascar, Paris se garde de côté les Éparses en les intégrant aux terres australes et antarctiques françaises. À l'époque, la jeune nation malgache laisse passer, mais en 1970, elle se réveille, elle demande à récupérer les îles au nom de la continuité territoriale. La France répond avec l'argument « Terra nullius », c'est-à-dire « ces terres n'appartenaient à personne quand nous y avons débarqué ». L'argument est quand même un peu fallacieux parce que les pêcheurs de Madagascar, eux, ils s'y rendent sans doute dans les éparses depuis plusieurs siècles. En 1979, une résolution de l'ONU donne raison à Madagascar et puis, plus rien. Pas question pour la France d'ouvrir une boîte de Pandore sur les territoires d'outre-mer. Sauf que ces derniers mois, un dossier très similaire a bougé. La Cour internationale de justice a demandé au Royaume-Uni de restituer à l'île Maurice l'archipel des Chagos, lui aussi dans l'océan Indien. Du coup, le pouvoir malgache se sent conforté dans sa position. Vous voyez, on est loin maintenant là, du conte de fées écolo. Hein.
Voilà, parce que l'enjeu, j'imagine, c'est pas une question de biodiversité ou de fierté nationale.
En tout cas, pas seulement. Il y a des intérêts beaucoup moins nobles en jeu, si je puis dire. Du côté de Madagascar, d'abord, on lorgne avec convoitise sur les réserves en hydrocarbures situées en mer au large des éparses. Du pétrole, du gaz, dans des proportions encore inconnue à ce jour. Madagascar se verrait bien utiliser ses ressources pour développer son économie, si tant est évidemment que ça aille dans la poche de la population, ce qui reste à démontrer. Du côté de la France, il y a aussi des intérêts cachés. Au départ, en 1960, le général de Gaulle y avait vu d'abord une zone potentielle pour les essais nucléaires français. Ça a fini en Polynésie, on le sait. Aujourd'hui, le calcul est économique et stratégique. La souveraineté française sur ces îles inhabitées a pour conséquence de nous attribuer, tenez-vous bien, 640 000 km² de territoire marin. C'est énorme. C'est une zone potentielle de réserve de pêche. C'est un emplacement géostratégique majeur qui voit passer bon nombre des pétroliers venus du golfe Persique. Sans compter que la France aussi lorgne discrètement sur les réserves en hydrocarbures. Elle a quand même accordé un permis d'exploration, tiens, à une compagnie pétrolière américaine. On se résume. Derrière la carte postale écolo, l'histoire est pas blanc-bleu, il y a du rififi en coulisses. Sur ce dossier des éparses, Emmanuel Macron a fixé une échéance. Trouver un compromis avec Madagascar d'ici à juin prochain. Au moment où, on le sait, le président français entend redéfinir la relation de la France à l'Afrique, le sort réservé à ces lointains confettis de l'ancien empire sera très révélateur.
Jean-Marc Four et Le Monde à l'envers, merci beaucoup. À demain Jean-Marc, même heure, même endroit. Nous, on reste ensemble pour la deuxième heure du 18-20 dans un instant. C'est le journal de Pierre Veil et puis le téléphone sonne. À tout de suite.